Imaginez que vous deviez quitter précipitamment votre domicile. Qu'est-ce que vous emporteriez? La Bible. C'est très spirituel. Non, je crois qu'une chose qui est très importante, qu'on devrait absolument prendre, c'est nos papiers d'identité. C'est vrai que sans papier d'identité, ben, ça peut être compliqué. On ne peut pas voyager, on ne peut pas prouver qui nous sommes, on ne peut pas obtenir d'autres papiers importants. Ben, voilà, c'est compliqué. Et ceux qu'on appelle les sans-papiers, ben, ils vivent souvent dans la pauvreté, dans le dénuement, dans la peur d'être renvoyé, etc. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Les papiers d'identité, ça légitime en quelque sorte notre présence, ça permet de nous reconnaître, ça permet de légitimer notre existence. Alors sur notre carte d'identité, ben, il y a différentes choses qui figurent. Bon, bien sûr qu'il y a notre photo, mais il y a aussi notre nom, notre nationalité, notre prénom et encore d'autres choses. Et en fait, notre identité, elle se construit avec ces éléments-là. La nationalité, ben, ça nous rattache à nos origines, à notre culture, à nos racines. Le nom, ça nous rattache à notre famille. On porte le même nom que nos parents, que nos grands-parents, etc. Bon, après, quand une femme se marie, elle prend le nom de son mari, ben, c'est vrai qu'elle s'intègre à une autre famille. Et puis le prénom, eh bien, c'est quelque chose qui sert à nous distinguer des autres membres de la famille. Donc, c'est trois éléments qui sont vraiment importants. Et on va se construire avec ces éléments-là. Et parfois, il y a des gens qui veulent changer de prénom ou de nom ou de nationalité, voilà, pour différentes raisons. Mais chaque être humain, en fait, a besoin de racines, de sentiments d'appartenance. Et le nom et la nationalité donnent ce sentiment d'appartenance. Et chaque être humain a aussi besoin d'individualité, c'est-à-dire d'être différent des autres, quelque chose qui va le différencier. C'est avec ces éléments-là qu'il va se sentir exister par rapport à autrui. Donc, il y a besoin, en même temps, d'être semblable, de ce sentiment d'appartenance, d'être dans une famille, d'être dans un pays, un citoyen d'un pays, et puis en même temps, ce besoin d'individualité, d'être différent des autres. Et les personnes qui ne connaissent pas leurs racines, qui ne connaissent pas, par exemple, leurs parents biologiques ou un des deux parents biologiques, ben, c'est souvent très compliqué pour eux. Et ils vont rechercher, à certaines périodes de leur vie, leurs origines, leurs racines, et ils auront besoin de ça pour pouvoir se construire psychologiquement. À certaines périodes de leur vie, notamment l'adolescence, quand ils deviennent parents, ou à l'âge du milieu de la vie, où il y a ces crises existentielles, voilà, dans la quarantaine, eh bien, c'est des périodes charnières où les personnes ont vraiment besoin de connaître leurs racines et ils vont rechercher cela jusqu'à ce qu'ils trouvent. Et s'ils ne trouvent pas, ben, ils auront ce sentiment qu'il leur manque une pièce du puzzle de leur vie. Donc, on voit que l'identité, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, donc ceux qui n'ont pas ces repères-là parce que c'est des enfants qui ont été adoptés, ou qui sont nés sous X, ou qui sont de pères inconnus, ou qui sont le fruit d'une relation illégitime, ben pour eux, c'est souvent compliqué. Alors, on a tous une origine terrestre, donc qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, et puis qu'on n'a pas choisi. Hein. On n'a pas choisi de naître dans tel pays, d'avoir tel et tel parent, etc. Mais on a aussi une origine spirituelle. Alors, c'est de ça que je vais parler ce matin, de notre identité spirituelle. Et j'ai donné comme titre à mon message « Quelle est ton identité spirituelle ?» Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Alors, on ne trouve pas forcément le mot « identité » dans la Bible, mais la Bible a quand même beaucoup à nous dire à ce sujet. Alors, je ne vais pas prétendre pouvoir tout dire ce matin, parce que je pense qu'il faudrait quand même plus de temps qu'une demi-heure pour ça. Mais tout d'abord, par rapport aux origines. La Bible parle beaucoup d'origines. D'ailleurs, la parole de Dieu commence par parler des origines. Hein, les origines du monde, les origines de la terre, des cieux et de la terre, les origines des plantes, des animaux, et de l'homme et de la femme. Et elle nous montre aussi que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Et les évangiles commencent aussi par parler des origines. Dans les quatre évangiles, dans les tout premiers versets, on trouve le mot « origine » ou « commencement » ou « généalogie ». Par exemple, dans Matthieu 1.1, Ça commence comme ça. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Après, il y a tout le détail de la généalogie. Puis souvent, quand on lit la parole de Dieu, les généalogies, on se dit, ouais, ça sert à quoi? C'est rébarbatif à lire. Je pense que quand vous lisez la Bible, vous ne vous amusez pas forcément à lire tous les noms qu'il y a dans les généalogies. Voilà, on se demande à quoi ça sert que ce soit dans la Bible, qu'est-ce que ça a à nous apporter. Par contre, moi, je connais quelqu'un qui s'est converti en lisant la généalogie de Jésus. Voilà, c'est particulier, mais voilà, ça existe quand même. En fait, c'est important les généalogies, parce que ça permet de relier tel individu à ses ancêtres et de voir au travers de toutes ces personnes, de voir le plan de Dieu s'accomplir dans l'histoire. Ça, c'est à quoi ça sert? C'est à ça, en fait, voir que le Seigneur, il est fidèle dans l'accomplissement de son plan pour l'humanité ou pour tel individu en particulier. Et dans la généalogie de Jésus, telle qu'elle est définie dans Matthieu, on voit ce verset, la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. On pourrait plutôt mettre descendant, hein, parce que bien sûr que Jésus n'était pas directement le fils de David ni le fils d'Abraham. Pourquoi il y a ces deux noms qui ressortent? Parce que David, c'est un grand roi, et ça nous montre que Jésus est roi, qu'il est de descendance royale. Il est le roi des Juifs, mais il est aussi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et puis, fils d'Abraham, pourquoi? Parce que c'est à Abraham qu'ont été faites les promesses. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Et Jésus a accompli cette prophétie. Elle a été accomplie en Jésus parce que quand Jésus est venu, il est venu pour sauver toutes les nations, pour sauver les gens de tout peuple, toute tribu, toute nation. Il est devenu le sauveur universel. Et c'est ainsi que toutes les nations peuvent être bénies dans cette descendance d'Abraham, en Jésus-Christ. Alors voilà pour ce qui est des origines. Maintenant, par rapport aux noms. Et les noms sont très importants dans la Bible. On trouve énormément de versets qui parlent de cela. Les noms ont tous une signification. Alors, la Bible ne parle pas de prénoms. Mais quand on parle de David, d'Abraham, de Pierre, Jacques ou Jean, c'est clair que c'est des prénoms, ce n'est pas des noms. Il n'y avait pas de noms, il n'y avait que des prénoms. Pourquoi? Parce que pour identifier quelqu'un, on disait son prénom, on disait fils de tel et tel, ou de la tribu de, ou bien encore de tel et tel endroit. Ça remplaçait en fait le nom de famille. Donc le nom, voilà, de dire de la tribu de, au fils de, ça montrait l'appartenance de la personne. Et Dieu lui-même s'est révélé aux hommes sous différents noms qui représentaient son caractère, ses attributs. L'Éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant, etc. Voilà, différents noms pour montrer chaque fois un attribut de Dieu. Le nom dans la parole de Dieu représente la personne elle-même. Quand il est par exemple marqué dans les psaumes, louer le nom de l'Éternel, ça veut dire louer l'Éternel, tout simplement. Hein. Ou nous avons confiance en son saint nom, ça veut dire nous avons confiance en lui. On donnait à l'enfant un nom, donc un prénom, en fonction de ses caractéristiques physiques, par exemple, ou des circonstances de sa naissance. Voilà, on a des exemples avec Ésaü et Jacob, avec Benjamin. Et parfois, Dieu a indiqué aux parents le nom à donner à l'enfant à naître. Et il a aussi parfois donné un nouveau nom à quelqu'un. Hein, Abraham qui est devenu Abraham, Jacob qui est devenu Israël, Jésus qui a dit à Simon, maintenant je vais t'appeler Pierre. Pourquoi? Pourquoi un nouveau nom, un nouveau prénom? Ça montrait en fait une nouvelle destinée. Ça montrait que la personne jusque-là, elle avait eu sa vie, et qu'à un moment donné, Dieu allait se révéler à cette personne et que cette personne, avec cette révélation du Seigneur, elle allait entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour elle. Ça va être une charnière, quoi. C'est comme un point charnière où on passe de notre vie humaine, toute simple, à notre destinée, ce pourquoi Dieu nous a créés. Voilà, donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je vais passer un peu plus loin, je vais voir. En fait, je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous remplir la tête de connaissances, mais c'est parce que nous-mêmes, ça a quelque chose à nous dire à nous. par rapport à notre identité spirituelle. Donc, lorsqu'on a accepté Christ dans notre cœur, eh bien, nous sommes nés de nouveau spirituellement. Nous sommes nés de Dieu. Et puis, cette nouvelle vie que nous avons reçue, c'est une vie qui est éternelle, qui va aller jusque dans l'éternité. Ce n'est pas comme notre vie physique qui va un jour s'arrêter. Et sans cette vie nouvelle, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, les versets 3 et 5. Si Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et puis le verset 5. « Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et ce terme « naître de nouveau » peut être traduit aussi par « naître d'en haut ». Donc ça montre vraiment cette origine céleste. Nous avons reçu, lorsque nous avons accepté Christ en nous, une nouvelle origine qui est une origine céleste. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'en haut. Dans Jean 1, les versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc qui ont accepté la parole, Jésus, hein, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Voilà, c'est une origine qui est différente, qui est spirituelle. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de Dieu, nous avons reçu une nouvelle identité, une identité spirituelle, une nouvelle origine. Nous sommes nés d'en haut. Et nous appartenons au peuple de Dieu, nous sommes citoyens des cieux. Vous vous rendez compte? Vous êtes tous binationaux, si vous avez reçu le Seigneur. Au moins binationaux. Hein? Voilà, vous l'êtes peut-être déjà avec vos papiers, hein? Vous êtes peut-être franco-suisse ou que sais-je. Mais nous sommes citoyens d'ici-bas, mais aussi citoyens des cieux. C'est ce qui est mis dans Philippiens 3, le verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. C'est pas rien quand même. Pas si vous réalisez ça. Je pense qu'on ne réalise pas vraiment. Voilà pour l'origine. Maintenant, par rapport au nouveau nom, eh bien, nous faisons désormais partie de la famille de Dieu. C'est ce qu'on a chanté au début, hein. Nous sommes frères et sœurs. Puisque nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Et être enfant de Dieu, ça implique aussi être héritier du royaume, héritier de Dieu. Hein? L'enfant a droit à un héritage. Dans Galates 4, les versets 4 à 7, « Dieu a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et nous sommes appelés chrétiens. Et chrétien, le mot chrétien, il vient du mot Christ. Donc, on porte le nom de Christ. C'est notre nom de famille spirituelle, le mot chrétien. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, qu'en est-il du prénom? On a vu les origines, on a vu le nom de famille, hein, qui montre notre appartenance à la famille de Dieu, mais le prénom. Alors, on a vu qu'il n'y a pas de mot prénom dans la Bible, mais que les prénoms existent pour différencier les individus. Et la Bible déclare que Dieu nous connaît par notre nom, sous-entendu par notre prénom. Il nous connaissait même avant qu'on soit conçu dans le ventre de notre mère. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et le fait qu'il nous appelle par notre nom, ça veut dire qu'on existe pour lui. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné un nom à tout ce qu'il a créé. Il a amené les choses à l'existence et il leur a donné un nom. Et c'est la même chose avec nous, en fait. Quand on est né, nos parents nous ont donné un prénom. Mais Dieu nous appelle par notre nom. Est-ce que vous savez que dans l'éternité, vous aurez un nouveau prénom? Vous savez ça? Il y a un verset qui en parle, c'est dans Apocalypse 2, le verset 17. « Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Quand même étonnant ce verset. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi est-ce qu'on recevra un nouveau prénom? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on sera les seuls à connaître ce prénom? Quand même étonnant. Il m'a toujours intrigué ce verset. Alors, je ne vais pas prétendre donner la bonne interprétation, ou la seule valable, ou que sais-je, mais je vais vous proposer une interprétation. On a tous un prénom par lequel les gens s'adressent à nous. Parfois, il y a des gens qui ont un surnom, des gens plus intimes, un cercle d'amis, qui nous ont peut-être donné un surnom, puis qui nous appellent par ce surnom-là. Mais on a peut-être aussi un nom que seuls les gens vraiment intimes ou seuls notre conjoint va utiliser. Bon, alors, classiquement, chérie, chérie, ou mon amour, c'est des mots classiques. Alors, si vous appelez votre mari, enfin votre conjoint, chérie ou chérie, vous serez le seul à l'appeler comme ça. S'il y a d'autres personnes qui l'appellent comme ça, quand même, ça va mettre des doutes sur la fidélité de votre conjoint. Hein? Ça va être un peu bizarre, on est bien d'accord. Donc, c'est un nom qui est intime, que seul vous allez utiliser, et votre conjoint va être le seul à qui ce nom va être adressé. Et ce nom, en fait, il va révéler l'intimité entre la personne qui va être appelée de ce nom et la personne qui va s'adresser en lui donnant ce nom. Hein? C'est un nom vraiment intime. Ça montre, en fait, l'amour qu'on porte à notre conjoint. Ça montre que cette personne, c'est la plus précieuse. C'est qu'il y a une relation exclusive avec cette personne. Cette personne, elle est plus importante que toutes les autres. Elle est spéciale. Alors, le fait que Jésus, dans l'éternité, va nous donner un nouveau prénom, mais est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Ça représente que chacun de nous, on est unique dans le cœur du Seigneur. Chacun de nous, on aura cette intimité exclusive avec lui. On sera tous ensemble dans l'éternité, des millions, des milliards, que sais-je, qu'on va adorer le Seigneur ensemble, ça va être magnifique. Mais en plus de ça, chacun individuellement, on aura une relation privilégiée avec notre Seigneur. Mais il y a de quoi se réjouir. Voilà, donc vraiment, chacun de nous, on est unique et précieux à ses yeux. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça change pour nous maintenant? Parce que ça peut paraître un petit peu abstrait, tout ça. Et ça implique quand même de grands privilèges. Tout d'abord, nous savons d'où nous venons et où nous allons. Nous savons que nous venons de Dieu et nous allons vers lui. C'est quand même déjà bien. On a des racines spirituelles dans l'éternité. Et de savoir d'où nous venons, c'est-à-dire nos origines spirituelles, ça va nous permettre de nous construire dans notre foi. De même qu'une personne, lorsqu'elle connaît ses origines biologiques, elle va pouvoir se construire psychologiquement. Nous, on va pouvoir nous construire dans la foi, progresser dans notre foi, lorsque nous savons que nos racines, elles sont dans l'éternité. Nous ne sommes plus perdus, nous ne sommes plus orphelins, nous avons une nouvelle famille qui est la famille de Dieu. L'Église, avec un E majuscule. Et on peut appeler Dieu notre Père. Et nous avons une patrie céleste dans laquelle Jésus nous a réservé une place. Nous passerons l'éternité avec lui, dans cette intimité extraordinaire. Et je crois que d'avoir cette espérance, ça peut vraiment nous aider à vivre ici-bas, à passer au travers des difficultés, des épreuves, des déceptions, etc. Je crois que c'est vraiment important. Si on a nos regards fixés sur ce qui nous attend, on sait que voilà, Dieu il vit en nous. Et nous lui appartenons, nous sommes à lui, nous sommes ses enfants, nous sommes précieux pour lui, nous sommes uniques à ses yeux, chacun de nous. Je crois que c'est quelque chose qui peut nous motiver à le servir, à l'aimer toujours plus. Mais je crois que souvent, ben, ici-bas, on regarde des fois nos difficultés, à notre vie, tout ça, puis on oublie un petit peu tout ça. Mais je crois que c'est bon de se rappeler ces choses-là, se dire, mais oui, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend, le meilleur, il est devant nous. Alors, est-ce que tu es conscient, consciente de ta nouvelle identité en Christ? Et qu'est-ce que ça change dans ta vie? Mais Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai, tu as fait de nous une nouvelle créature. Seigneur, tu nous as donné une nouvelle destinée, tu t'es révélé à nous et nous t'appartenons. Nous pouvons t'appeler Père. Nous pouvons avoir nos racines dans l'éternité. Nous savons que un jour, nous passerons l'éternité avec toi. Et Seigneur, merci parce que chacun, chacune de nous est unique et précieux devant toi. Tu nous connais parfaitement, mieux que nous-mêmes. Tu nous aimes profondément. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Et Seigneur, merci parce que dans l'éternité, nous aurons cette intimité avec toi. Ce sera sans... Ouais, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus les préoccupations. Ce sera parfait, ce sera une intimité parfaite, totale. Et on peut se réjouir. Et Seigneur, je te demande que chacun de nous puisse prendre conscience de ça. Et puis Seigneur, que ça nous motive chacun, chacune de nous, à t'aimer toujours plus, à te servir toujours plus, à nous consacrer à toi. Sachant que notre vie ici-bas, bah, c'est du temporaire. Mais que Seigneur, notre vie, elle est pour l'éternité avec toi. Alors merci de rejoindre chacun, de toucher chacun, de révéler vraiment cela à chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom. Amen.